Studio Tamani, voici les informations en français.
Les autorités communales de Diré s'indignent face à l'assassinat hier de 9 jeunes candidats aux épreuves sportives des forces armées maliennes. Au même moment, la ville de Boni se vide de sa population à cause de l'insécurité. La pénurie d'eau persiste dans certaines localités du pays. À Bourem, si l'on constate une nette amélioration à Tombouctou, des habitants demandent des solutions idoines aux autorités. Exhiber sa vie sur les réseaux sociaux est le fort de certaines personnes dans la société. C'est le sujet de votre rubrique Zoom sur du jour. À l'instant, le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails avec Hamse Toutouré. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Je l'annonçais à l'instant dans les titres. 9 candidats en partance à Tombouctou pour être soumis aux épreuves sportives des forces armées maliennes ont été fusillés par des hommes armés non identifiés. L'incident a eu lieu ce dimanche 19 mai sur l'axe Goundam-Diré. Les corps des victimes ont été conduits le même jour à la morgue de Diré avant d'être inhumés dans l'après-midi. Les autorités communales ont exprimé leur face à ce drame. Au même moment, des sources locales à Massina, dans la région de Ségou, font état d'une attaque repoussée par les forces armées maliennes. Le point avec Maman Baba Kunta.
Le véhicule de ces jeunes a été intercepté par des individus armés avant d'être conduit à une destination inconnue, rapporte des sources locales. Après avoir libéré le chauffeur, les assaillants ont fusillé sur place les 9 jeunes garçons, soulignent les mêmes sources. Ils étaient tous candidats au concours d'entrée dans l'armée. Ce drame a suscité l'émoi au sein des populations de Tombouctou. De leur côté, les autorités communales condamnent cet acte odieux. Pour le deuxième adjoint au maire de Diré, Abdoulaye Sidi-Sissé, c'est une situation regrettable et déplorable. Il ajoute que la population du cercle de Diré pleure à jamais ces jeunes. Toutefois, à Tombouctou, des sources indiquent que tous les autres candidats sont sur place pour participer aux épreuves sportives des forces armées maliennes. Des dispositions sont également prises pour sécuriser le site, rapporte les mêmes sources. Vers le centre du pays, la ville de Massina s'est levée ce lundi matin avec des tirs d'armes lourdes. Selon des sources, il s'agissait d'une attaque est repoussée par les FAMA qui a visé un détachement militaire basé derrière le fleuve près de Kebozo. Elle cite des blessés et des morts. Les blessés ont été admis au centre de santé de Massina, précisent les mêmes sources. Mais pour l'instant, l'armée n'a pas communiqué sur cet incident.
La ville de Boni, dans le centre du Mali, reste sous blocus des hommes armés. Face à la dégradation de la situation humanitaire, les ressortissants de la localité tirent la sonnette d'alarme. L'Association pour l'émergence de Boni appelle les autorités à prendre des dispositions pour l'accueil des déplacés. Hamadou Ndiko est le chargé de communication. Il est joint par Mahaman Babakunta.
La situation actuelle de Boni est hyper catastrophe, on peut dire. Je peux dire maintenant, tout le monde cherche la route pour laisser le village. Hein, parce qu'il n'y a pas de vivres sur place. Ils disent qu'ils ont leur argent en poste, mais il n'y a pas quelque chose à accepter. Quoi. La population de Boni se déplace vers Douanza. Douanza-Boni, ça fait 90 km. Il faut marcher 25 km à pied entre Boni et Nokara et aller à Douanza. Maintenant, les gens qui marchent à pied entre Boni et Nokara, parfois on kidnappe même les gens en cours de route.
La semaine dernière, des véhicules de transport de Yuwaru et ceux du nord qui passent par Yuwaru ont été arrêtés par des bandits armés non identifiés. Selon des témoins, les passagers ont été fouillés par des hommes armés. L'incident s'est produit entre Ngaroi, Djaloubé, Saba et Seori dans les cercles de Yuwaru et de Mopti. Les mêmes sources rapportent que les bandits ont brûlé plusieurs cartons de cigarettes. Certains passagers affirment que les femmes et les enfants ont été épargnés de la fouille. Les habitants demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour sécuriser la zone. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Le verdict sur la dissolution du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance vient de tomber. Le tribunal de la commune 1 du district de Bamako vient de rejeter cette demande de dissolution du parti faite par le ministère de l'administration territoriale. Autre verdict prononcé, c'est celui d'Étienne Fakaba Sissoko, l'économiste chercheur ECOP, de 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis et au paiement d'une amende de 3 millions de francs CFA. Autre titre de ce journal, depuis quelques jours, les localités de Nara, Bourem et Tombouctou sont frappées par une grave pénurie d'eau. Dans les rues de ces villes, précisément à Tombouctou, les rangs se forment désormais près des châteaux d'eau et des pompes manuelles. Cela pose d'énormes difficultés aux populations qui accusent la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep, mais cette dernière justifie son cas par un manque de moyens. Le reportage est signé Issa Oumar Togola.
À Bourem, la crise d'eau connaît une légère amélioration. C'est ce que nous apprend Abdelkassim Sanogo, vice-président de la commission des consommateurs d'eau et d'électricité de la localité.
À travers la Croix-Rouge malienne, nous avons pu avoir un groupe. Mais malheureusement, le groupe est d'une capacité minime, mais ça a pu prendre la petite pompe. Donc avec cette petite pompe, on est en train de marcher en donnant l'eau par quartier et par secteur.
Par ailleurs, à Tombouctou, la situation est plutôt critique. Dans les foyers, les habitants ont rarement accès à l'eau du robinet, comme nous l'explique ce citoyen.
On voit le matin les femmes portaient des seaux, des bidons, les enfants derrière elles, ça laisse vraiment perplexe. Parce qu'aujourd'hui, l'eau, ça ne doit pas être une denrée rare.
Pourtant, les installations de la société malienne de gestion de l'eau potable tournent à plein régime dans la ville. Son directeur, Mamadou Traoré, assure que des mesures sont en cours.
Nous, on a fait 4 forages et une station qui a été construite il y a plus de 50 ans. C'est la demande qui est plus forte que la production. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect coupure d'électricité. L'entreprise qui doit construire la nouvelle station et raccorder les 5 forages. L'entreprise est sur place même aujourd'hui. Ils sont en train de travailler.
En ce qui concerne l'augmentation des factures malgré l'absence d'eau, le directeur de la Somagep demande aux populations de signaler cela à la société pour que ces erreurs puissent être corrigées.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Une publication sur les réseaux sociaux attribue un nouveau projet de construction de villa au Mali. Info ou Infox, Fatmata Kodio a vérifié pour nous.
La vidéo de 38 secondes postée sur TikTok montre une maquette de construction des bâtiments luxueux au bord d'une île. On peut voir sur le poste un nouveau projet pour le Mali accompagné des stickers du drapeau malien. En bas de la publication, c'est écrit en surligné de blanc « Vive la transition du Mali ». Mais attention, c'est un fake. Il ne s'agit pas du Mali, mais de Amali Island de Dubaï. En réalité, c'est un projet élaboré par Amira Sajouani, fondatrice de Pripco et Amali Property. On a retrouvé la vidéo originale de la maquette du projet publiée sur Instagram par Farouk Seyd. Lors d'un entretien accordé au site d'information Middle East Economy, Amira affirme que Amali vient de Amal, espoir en arabe. Elle a fondé l'entreprise avec son frère pour, dit-elle, réaliser les rêves et les espoirs de nos précieux clients. Le dieu projet se compose de 24 villas ultra luxueuses exclusives offrant une vue imprenable sur les toits de Dubaï. En conclusion, ce projet n'a aucun lien avec le Mali.
La rubrique Zoom sur d'aujourd'hui s'intéresse aux personnes qui étalent leur vie sur les réseaux sociaux. Autrement dit, celles qui montrent tout ce qu'elles font sur Facebook, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. Et c'est avec Fatia Tara et Fatoumata Dembélé.
Par nature, il y a des gens qui se veulent absolument très importants dans la société. Pour atteindre cet objectif, ils optent pour l'exhibition de leur vie. Et les réseaux sociaux favorisent bien ces comportements. Djamila est l'exemple parfait de ce phénomène. Cette fille transporte toute sa vie sur les réseaux sociaux. Souvent, elle poste des photos d'elle-même au boulot, au marché, à la plage et même au resto. Bref, tout son quotidien. Avec des commentaires comme « Sortie time, la vie est belle, au diable mes ennemis » ou encore « On s'en fout de quelqu'un, hein. Pour nous, il y a Dieu dedans. » La famille Gundo est le prototype de Djamila. Dès que Marama, la mère de famille, se connecte, c'est pour poster des photos de mets vraiment succulents sur les réseaux. Du poulet, de la viande ou du poisson braisé. Accompagné de propos, sécurité alimentaire assurée chez les Gundo. À côté de ceci, il y a aussi ceux qui exhibent les images de leur nouveau-né à peine sorti de la maternité ou celle de leur mari avec souvent une exposition des objets des marques ou des liasses des billets des banques. Ceci oublie certainement l'adage qui dit « Pour vivre erré, il faut vivre caché. »
Et retrouvons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Amsetou.
Alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Campagne agricole 2024-2025, le coup d'envoi est-il donné? Et nos invités d'aujourd'hui sont Oumar Keïta, statisticien au ministère de l'Agriculture, Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement, et notre troisième invité est Yadji Sangaré, président de la jeunesse rurale de Bougouni. Mais nous attendons toujours nos invités qui ne se sont pas présentés encore.
C'est noté, Mariam. Et pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani, téléchargeable sur Play Store. Et c'est ce qui referme ce journal, une présentation de Hamsetou Touré. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. Femmes et corruption, briser le silence et agir ensemble, ce thème était au cœur du premier colloque international sur le genre et la corruption tenu du 15 au 17 mai 2024 à Bamako. Cette rencontre vise à accroître le pouvoir des femmes et des filles face aux pratiques corruptibles et discriminatoires. L'activité a réuni des experts, des militants des droits de l'homme et des acteurs de la société civile. L'initiative est du projet LUCEJ, projet de lutte contre la corruption et par l'égalité des genres. Il est mis en œuvre par l'ENAP, École nationale d'administration publique du Québec, sur financement des Affaires mondiales Canada. Le magazine Gouvernance et Citoyenneté est une réalisation de Moussa Malé Sissoko et de Ramatou Haïdara.
Les participants ont prôné la vulgarisation de la stratégie de lutte contre la corruption et l'accélération d'une législation sur la protection des lanceurs d'alerte. Ils ont également recommandé le renforcement des capacités de tous les acteurs sur les outils et dispositifs de lutte contre la pratique. La directrice de l'ENAP, chargée de la mise en œuvre du projet, Mme Deye Senaboutop, envisage un plaidoyer auprès des autorités maliennes afin que les recommandations puissent être prises en compte.
À travers les résultats des travaux de groupe qui ont lieu à l'occasion de ce colloque. Je retiens, c'est des acteurs et des actrices déterminés, engagés pour combattre le fléau de la corruption. À partir des recommandations, nous allons faire le suivi. Déjà au niveau du projet, on va mettre à jour nos documents de référence. Donc les recommandations issues de ce colloque vont nous permettre de réorienter nos actions, d'améliorer notre intervention, communication, éducation et surtout plaidoyer.
La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté au Mali a participé à ce colloque. Selon sa secrétaire générale, Mme Ada Diawara, c'est une nécessité absolue de renforcer la participation des femmes dans les processus de prise de décision pour une bonne gouvernance.
Ces trois jours nous ont vraiment édifiés sur ce que les femmes et les filles subissent du fait des pratiques corruptives. On a fait des recommandations à l'endroit des gouvernants, des PTF, des organisations de la société civile de lutte contre la corruption. On a dit qu'il faut d'abord renforcer la capacité des femmes, leur capacité de résilience pour qu'elles puissent comprendre même qu'elles ont un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption.
Les participants se disent satisfaits des travaux. Ils affirment que c'est un créneau de prise de conscience collective afin de diminuer la corruption à l'égard des femmes et des filles.
Comment dénoncer, qui saisir tout ça là? Nous avons eu à acquérir des connaissances. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans notre combat quotidien.
Nous repartons très satisfaits de cette rencontre. Nous avons beaucoup appris du contexte malien sur les différentes réformes.
Il faut la volonté politique, il faut la rigueur, il faut une application effective des tests.
Ce genre de colloque, les mentalités vont changer également.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, estime que c'est une initiative qui est en adéquation avec la vision de son département, contribuera à renforcer les débats sur la nécessité de réduire les inégalités des femmes et des filles au Mali. Mamoudou Kassougué rappelle l'ampleur du désastre causé par la corruption.
De 2005 à 2019, l'État a perdu 1266 milliards de francs CFA. Ces estimations qui sont révélatrices de l'ampleur du désastre nous interpellent tous. Malgré leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, les femmes sont souvent sous-représentées dans les postes de pouvoir et d'influence, ce qui limite leur capacité à influencer les politiques et les décisions. Les stéréotypes sexistes qui limitent leur capacité à participer pleinement à la vie publique.
L'ambassadeur du Canada au Mali, Nicolas Simard, a de son côté souhaité que ce colloque soit un catalyseur de lutte continue contre la corruption et ses pratiques néfastes au Mali. Rappelons que des experts sont venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Les échanges ont porté sur l'impact de la corruption dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice et les corridors routiers.